Et Nathan, tu nous parles maintenant d'économie.
Et oui Marie, bien on reprend cette année comme on a fini la précédente avec l'État qui met de l'argent dans nos petites poches.
Ah, quelque chose me dit que tu vas parler du plan de relance.
Dans le mille, on dirait presque que nos émissions sont préparées à l'avance. Alors après un dispositif de chômage partiel étendu, dont on a déjà parlé ici, un fonds de solidarité pour venir en aide aux entreprises et des mesures de garantie de prêt qui a permis à l'endettement privé d'encore plus exploser, l'État a décidé de passer à la vitesse supérieure en lançant le 3 septembre son plan de relance. On écoute notre ministre de l'Économie.
Ce plan de relance doit nous permettre de créer les emplois qu'attendent les Français.
Des emplois, oui, car l'économie va mal, la culture, l'automobile, le tourisme ne se portent pas bien. Et pour faire face au choc, je cite les mots du ministre, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d'euros est déployé par le gouvernement autour de trois volets principaux. L'écologie, l'objectif stratégique de ce plan, pour accompagner la transition vers une économie plus verte et durable. La compétitivité, pour donner aux entreprises les conditions les plus favorables pour développer leurs activités et ainsi préserver l'emploi des salariés. Et la cohésion pour garantir la solidarité entre les générations, entre les territoires et entre tous les Français.
Et globalement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, ça veut dire que l'État va tenter de mettre un petit coup à l'économie en l'encourageant à aller dans la bonne direction. Alors, quelle est-elle, cette direction ? Celle envisagée par l'État est un retour à la croissance, une reprise après une chute de 13,8% au second trimestre, en empruntant un chemin un peu plus vert qu'auparavant, sans changer drastiquement pour autant de direction. Surtout, ce plan indique qu'après avoir subi un choc, il est le temps de la reprise pour l'économie française. Une reprise qui ne se fera pas tout seul. Pour mieux comprendre, faisons un bond en 1929 et nous traiterons de la plus grande lubie des économistes, John Maynard Keynes. Alors en 1929, lorsque la crise se produit, le débat public se tourne vers les économistes pour trouver une solution. Le problème est que la macroéconomie est à l'époque encore balbutiante et les économistes n'ont pas forcément de réponse. Il faut dire que la macroéconomie pré-keynésienne, si tant qu'elle ait existé, postulait un fonctionnement des marchés qui devait assurer un équilibre systématique entre offre et demande par le seul jeu des variations des prix, en particulier sur le marché des fonds prêtables auquel est réduit le marché financier. Bon, pour faire simple, à l'époque, les économistes préconisaient de ne rien faire, qu'il ne faut surtout toucher à rien puisqu'épargne, investissement, emploi, etc., tout doit s'équilibrer. Sauf qu'à l'époque, rien ne s'équilibre, et déjà que peu avaient vu la bulle spéculative se former, nombreux sont les hommes à la tête des institutions à sous-estimer la crise. JP Morgan disait à l'époque, par exemple, qu'il n'avait jamais entendu parler de dépression. Il faut attendre 1933 et le fameux New Deal de Roosevelt pour une réaction, puis les travaux de John Maynard Keynes, notamment son grand classique « La théorie générale de l'emploi et de la monnaie », pour fournir un cadre théorique à tout cela. Ce qui se passe à l'époque, pour faire simple, est un manque de coordination. Les banquiers ne prêtent plus à des entreprises qui produisent de moins en moins, puisque de toute façon, leur production ne se vend pas, et donc on assiste à du licenciement et un chômage de masse qui s'installe. Mais avec tous ces nouveaux chômeurs, il n'y a personne pour investir et personne pour consommer. En bref, l'économie tourne en sous-régime. Pour Keynes, il est là le rôle de l'État. C'est le seul à pouvoir intervenir pour refaire repartir la machine. Cette pensée sera modélisée ensuite par John Hicks en 1937, produisant une synthèse assez bluffante pour donner l'impression aux États que l'on comprend l'économie et surtout que l'on pouvait la réguler à souhait.
Oula Nathan, tu t'égares là.
Oui, pardon. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis Keynes et cette crise de l'intervention de l'État, l'intervention de l'État est devenue comme le complément indispensable du marché dans la fonction de coordination de l'activité économique à la suite d'une crise. Fini la tentative de 1929, les plans de relance sortie de crise ne sont plus contestés en soi et sont promus quasi systématiquement. Nicolas Sarkozy, par exemple, après 2008, programmait 26 milliards d'euros d'investissement en annonçant fièrement « Notre réponse à la crise, c'est l'investissement ». Aujourd'hui, c'est 100 milliards et peu de voix s'élèvent contre.
Et en quoi consiste ce plan d'investissement ?
Bien comme déjà légèrement évoqué, il se divise en trois volets. Un premier écologique avec 30 milliards dans l'écologie qui va dans les transports, la rénovation de bâtiments. Un second volet concerne la compétitivité et l'innovation avec 35 milliards d'investis. Et enfin 35 milliards pour le troisième volet nommé cohésion territoriale. Ces sommes sont à mettre dans l'économie à travers des subventions comme celles proposées à des projets visant à décarboniser l'économie ou bien à travers des réductions d'impôts, notamment sur la production. Et puis aussi à travers des primes comme des primes à l'embauche pour ne nommer qu'un échantillon. Je ne peux malheureusement pas tout détailler, à moins que l'on prolonge la chronique jusqu'au dîner. A noter que ce plan de relance s'étale sur plusieurs années, de 2020 à 2022 et potentiellement jusqu'à 2024.
Ouais, donc c'est presque de la planification à ce niveau-là.
Haha, qui aurait cru que Macron était bolchevique ? Par ailleurs, merci l'Europe qui est censée fournir 40 milliards sur ses 100, soit 40% du plan.
Ouh, un calcul bien compliqué que t'as fait là. Et ce plan est critiqué ?
Pas tant que ça. Déjà que beaucoup l'attendaient. Après, il n'empêche que certains, comme le magazine Valeurs Actuelles, trouvent l'enveloppe trop faible, surtout en comparaison de nos voisins allemands et de l'oncle Sam. En effet, Berlin aurait consacré 6% de son PIB pour contrecarrer la crise et Washington 10%. En ce qui nous concerne, ce sera seulement 4%. Une critique que partage Jean-Luc Mélenchon. Puis ensuite, il y a débat sur ce que l'on doit soutenir. Je me répète, mais l'intérêt d'un plan de relance est de diriger l'économie vers ce qui nous intéresse. Donc derrière tout plan de relance, il y a un petit projet de société. Entre Valeurs Actuelles qui souhaiterait que l'industrie traditionnelle soit plus soutenue et Jean-Luc Mélenchon qui souhaiterait qu'on profite de cette relance pour sortir du nucléaire, les avis divergent. Il demeure quand même généralement des inquiétudes quant au plan de relance. Premièrement, est-ce que l'appel du pied de l'État sera reçu par les entreprises et les investisseurs? Car pour subventionner des rénovations du bâtiment, il faut encore que rénovation se fasse. C'est ce que craint par ailleurs le cercle des économistes, car pour citer une énième fois Keynes dans cette chronique, l'offre ne crée pas nécessairement sa propre demande. Les cercles des économistes s'inquiètent d'une demande trop faible et notamment d'une consommation qui ne suivrait pas. Puis, il y a la manière dont l'enveloppe de 100 milliards sera gérée. Sans rentrer dans les débats politiques déjà évoqués, il y a toujours une crainte que cet argent serve à financer des activités finalement peu bénéfiques à l'économie. Dans tous les cas, et malheureusement comme souvent, avant de pouvoir juger ce plan de relance, il faudra encore attendre quelques années.
Patience, patience. Donc, en attendant, si vous voulez nous rejoindre, on est actuellement en cœur des jardins Descartes. Venez nous écouter, venez nous voir. On est là jusqu'à 17h et même après. Venez nous poser des questions, venez nous rejoindre. Et si l'économie vous intéresse, venez rejoindre Nathan et les autres le jeudi à 20h pour le journal radiophonique amplifié.
Il giornale radiofonico dell'amplificazione.
Sur Transistor.
Voilà, on est là jusqu'à 17h, 17h30, venez nous rejoindre. Et encore pour cette soirée, on aura une fiction, une chronique horoscope, un petit peu de culture. On va parler de la rentrée littéraire, quelques improvisations, un petit peu de publicité. Et n'hésitez pas à nous rejoindre et à poser vos questions, à aller voir sur notre site transistor.fr. Nous sommes actuellement en direct. Vous pouvez nous écouter en ce moment et quand vous voudrez, ce soir, demain et toute l'année. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour pour voir les nouveautés, les nouvelles émissions qui sont sorties récemment sur Transistor. Vous y trouverez de la musique, de la littérature, de l'actualité, l'émission Parloir de Benoît et beaucoup d'autres surprises à voir sur transistor.fr. Si vous aimez le théâtre et le cinéma, n'hésitez pas aussi à venir nous retrouver. Si vous écoutiez France Inter, sachez aussi que nous aussi, on a des invités de marque et sur Transistor, pas besoin de se lever aux aurores pour les écouter. Si vous écoutiez France Culture, sachez que sur Transistor aussi, on parle d'hétérotopie, de troubles ontologicaux, métaphysicaux, poétiques, existentiels et des dernières sorties littéraires. Et si vous écoutiez Énergie, sachez que Transistor a été officiellement reconnu comme remède officiel au mauvais goût et qu'on passe aussi de la musique de qualité sélectionnée avec amour et commentée avec soin. Je te laisse, Nathan, pour la musicienne.